Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour et bienvenue à tous. Je vous salue Francis Laloupo. Comment allez-vous?
Bonjour Liliane, je vais bien, j'espère que vous aussi. Et je salue bien entendu nos auditrices et auditeurs et merci de la fidélité.
En tout cas, moi je vous exprime toute ma compassion, hein, entre 9 et 12 degrés ce week-end à Paris. En tout cas, bon courage Francis Laloupo.
Merci de votre compassion, hein, elle est sincère, j'en suis persuadé.
Et nous vous accueillerons à Dakar si vous voulez un peu de soleil. Hein.
Parlons du sommaire à présent, bien sûr Liliane. Premier sujet bien sûr de cette édition et surtout une question, comment venir à bout des récurrentes attaques terroristes dans le Sahel?
Et l'un des pays où la situation est très préoccupante dans le Sahel, c'est bien le Burkina Faso, qui figure sur la liste des destinations désormais déconseillées par la France à ses ressortissants. Ouagadougou proteste. Il faut dire que le Burkina a lancé ces derniers jours deux opérations dans les régions du centre-nord et du nord du pays. En réponse aux récentes attaques contre les forces armées, une trentaine de terroristes ont été tués d'après cette armée. Le gouvernement burkinabé est-il en train de reprendre la main dans la lutte contre le terrorisme et a-t-il les moyens de mener durablement la guerre contre ceux qui sèment la terreur dans le pays? Analyse à suivre.
Et au Niger, Liliane, quel avenir politique pour l'opposant Amadou rentré dans son pays cette semaine?
Oui, et cela après 3 ans d'exil. Le chef de file de l'opposition nigérienne a été conduit en prison lundi pour purger les 8 mois restants de sa peine d'un an de prison pour trafic de bébés. À un an de la présidentielle dont le premier tour est prévu en décembre 2020 et un éventuel second tour en février 2021, son retour va-t-il permettre de redynamiser, ressouder l'opposition en quête d'une victoire? Quel rôle va-t-il jouer alors même qu'il pourrait être écarté de ce scrutin en raison de sa condamnation? Décryptage.
Autre sujet à décrypter, la controverse et les questions autour de la restitution du sabre d'El-Hadj Omar Tall au Sénégal par la France.
Acte symbolique posé à Dakar par le Premier ministre français, mais le retour de ce sabre qui a appartenu au chef religieux sénégalais, jusque-là exposé dans un musée à Paris, annonce-t-il pour autant la restitution, même à long terme, de milliers d'autres objets, comme l'avait recommandé le rapport Savoy-Sahar? Cette restitution illustre-t-elle de la réelle volonté de la France de remettre à l'Afrique subsaharienne les 90 000 objets d'art qui se trouvent dans les collections publiques françaises, dont 70 000 au musée du Quai Branly, Jacques Chirac? Nous en débattrons. Dans l'immédiat, Francis, le plateau, et c'est avec vous.
Une autre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Ouagadougou, Eddy Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ancienne formation au pouvoir sous le régime de Blaise Compaoré. Eddy Komboigo, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Niamey au Niger, Aliou Oumarou Modibo, directeur de la publication du quotidien Le Matinal, quotidien édité au Niger. Aliou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Eddy Komboigo, expert comptable de formation, professeur à l'université de Ouagadougou. Vous avez été élu député du CDP en décembre 2012 suite au coup d'État éphémère et avorté de septembre 2015. Vous êtes interpellé en janvier 2016, puis inculpé pour complicité avec les putschistes après plus de 4 mois de détention. Et à l'issue d'une audition sur le fond du dossier, aucun élément de culpabilité n'ayant été retenu contre vous. Vous bénéficierez ensuite d'une liberté provisoire avant d'être totalement disculpé en décembre 2017. Et au 7e congrès de votre parti, le CDP, qui s'est déroulé, il faut le rappeler, du 5 au 6 mai 2018, vous avez été élu à la tête du parti pour un nouveau mandat de 3 ans. Eddy Komboigo, vous serez notre grand témoin dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà pour le plateau, Liliane. Premier sujet donc, la crise sécuritaire dans le Sahel.
Oui, Francis, et cela fait 2 semaines que le président du Faso, Rochma Christian Kabore, a appelé à la mobilisation générale et a également annoncé le recrutement de volontaires pour aider à combattre le terrorisme. Les attaques des groupes armés contre des civils et des positions de l'armée sont devenues récurrentes. Le gouvernement tente pour l'instant sans succès de mettre fin à cette menace. Cette semaine, une mise à jour de la carte du Burkina Faso par le ministère français des Affaires étrangères a suscité la colère des autorités burkinabées qui reprochent à son partenaire de manquer de solidarité. La carte du Burkina Faso est en effet désormais désormais entièrement donc en rouge et orange, ce qui signifie que c'est tout le pays qui est fortement déconseillé aux voyageurs par la France. Écoutez la réaction à ce propos du porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Rémi Dandinou, au micro BBC Afrique de Jacques Matande Diambi.
Il y a donc forcément déjà un coût humain, un coût au niveau de l'économie qui est important. Et lui imposer encore cette situation où le pays devient infréquentable pour certaines chancelleries, ça pose un problème.
Un problème, vous le percevez comme une mauvaise publicité, alors que le pays est réellement confronté à des problèmes de sécurité ?
Je pense qu'on a besoin parfois de plus de solidarité et que cela s'exprime aussi dans des situations comme celle-là. Nous avons un pays qui, comme dans la sous-région, fait face à un certain nombre de conflits et nous disons de façon assez simple qu'on aurait pu effectivement trouver peut-être des canaux moins portant atteinte à la situation actuelle d'accessibilité et d'ouverture de notre pays au reste du monde pour informer les ressortissants français. Mais cela dit, la France parle aux Français, les Burkinabés parlent aux Burkinabés, et aux Burkinabés, nous disons simplement que c'est une situation qui est délicate. Vous avez un pays depuis 4 ans qui est soumis à un conflit, un pays qui est extrêmement résilient.
Voilà. Monsieur Eddy Kombo-Igo, on vient d'écouter le porte-parole du gouvernement burkinabé, votre pays. Partagez-vous ou alors tout au moins comprenez-vous le mécontentement des autorités du Faso sur la présentation de la carte du pays faite par la France qui classe tout le Burkina en rouge et orange ?
Non, permettez-moi d'abord... au nom de mon parti et au nom des militants, de m'incliner sur la mémoire des victimes de ces agressions sauvages et de porter ma compassion aux familles déplorées et de soutenir les multiples blessés qui viennent de plus en plus chaque jour à Ouagadougou. Je crois que la déclaration de ministre Djangiroun est une déclaration de faiblesse. C'est une reconnaissance en réalité de l'incapacité de son gouvernement de venir à bout de cette hydre.
Avant de parler de la position du gouvernement, je souhaitais que vous réagissiez précisément à la prise de position du porte-parole du gouvernement au nom du Burkina sur le fait que le Burkina, votre pays, est désormais classé en rouge et orange par l'État français, par le gouvernement français. Est-ce que vous partagez la colère du porte-parole du gouvernement ?
Je n'ai pas d'avis particulier à donner. Le peuple, le gouvernement français a le droit d'informer ses compatriotes de la situation et de prévenir une situation dangereuse. Mais nous vivons ici, c'est vrai, aujourd'hui, c'est la psychose générale. Alors, si le gouvernement français informe les Français de ne pas venir au Burkina Faso, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, je pense que la responsabilité revient au gouvernement burkinabé de n'avoir pas pris les mesures pour que cela n'arrive pas.
Donc, vous dites autant que le ministère français des Affaires étrangères que le Burkina est bien au rouge et orange et que les étrangers ne doivent plus ou bien doivent se méfier de votre pays.
Non, moi je ne le dirais pas de cette manière. Je comprends la position de la France. Je comprends la position de la France, c'est une position de prévention. Au Burkina Faso et notamment à Ouagadougou et ailleurs, il réside également, non seulement des Burkinabés, mais des étrangers et des Français. Maintenant, à titre préventif, ceux qui souhaitent, c'est-à-dire le Burkina est devenu, on comprend qu'ils disent que le Burkina est devenu dangereux parce que la guerre s'est empirée, faisant beaucoup de victimes et c'est vraiment dommage pour notre pays.
Francis.
Oui, Eddy Kombo-Igo. Alors, comme vous le savez, le terrorisme n'a pas de parti politique, hein, et il frappe de manière indiscriminée tous vos concitoyens. Vous dites que c'est le pouvoir qui est responsable de la situation. Vous avez déclaré récemment que le président Kabore était le principal responsable de cette situation. Est-ce qu'on peut désigner un chef d'État comme le principal responsable d'attaques terroristes ? Est-ce que ce n'est pas là un propos essentiellement politicien ?
Faisons la différence. Je n'ai pas dit que le président Kaboré est coupable.
Donc, vous avez dit principal responsable dans une interview que vous avez accordée à Jeune Afrique.
Bien sûr, il est responsable parce qu'il est le président du Burkina Faso. Il est le chef suprême des armées. Il a été voté. Et parmi ses attributions, que d'assurer la sécurité et au Burkinabé et à l'ensemble du pays. D'assurer cette sécurité, d'abord des hommes, l'intégration de toute l'intégrité du territoire, et d'assurer la sécurité des biens et des hommes. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, cela n'est pas acquis. Donc, qui a sa responsabilité? Le peuple burkinabé, en allant le voter, lui donne cette responsabilité de garantir cette sécurité. Cette sécurité n'étant pas là, il pourrait répondre.
Alors, vous critiquez fortement, on entend bien, vous critiquez fortement la gestion, la situation sécuritaire par les autorités burkinabées, les actuelles autorités. Mais est-ce que vous, en tant qu'opposition, vous avez des propositions alternatives pour la résolution de cette crise?
Bien sûr que nous avons fait des propositions. D'abord, nous avons dit qu'il fallait bien diagnostiquer le problème de ce terrorisme. Pourquoi aujourd'hui, des gens que l'on ne connaît pas viennent attaquer notre pays? En 2016, nous avons subi la première attaque qui avait été revendiquée par Al-Qaïda. Là, nous avons été indexés. Le gouvernement a indexé les régimes, l'ancien régime, comme étant à la base de ce qui s'est passé. Nous l'avons dit, approché pour leur dire, nous sommes des ennemis de près de loin. Malheureusement, c'est cette chanson qui s'est poursuivie pendant ces quatre dernières années. À chercher des boucs émissaires internes. Nous leur avons demandé de mieux diagnostiquer la situation et pour chercher des problèmes. Ils n'ont pas cherché. Nous avons fait des propositions en leur disant que pour combattre le terrorisme, il fallait rapidement se doter d'une force de défense de sécurité bien équipée et des forces spéciales. Malheureusement, nous avons constaté qu'à leur arrivée, l'armée a été immédiatement restructurée et en train d'être restructurée. Nous avons également dit qu'il faut des services de renseignement efficaces et compétents. Vous avez constaté que le système de renseignement a été défait complètement sans en avoir une proposition de substitution. La diplomatie, nous avons demandé également qu'il y ait une diplomatie dynamique qui s'inspire de la diplomatie des autres pays, de leur expérience, de combat du terrorisme. Nous avons une diplomatie.
Et vous n'avez pas été écouté.
Nous n'avons pas été écouté. Et en fait, nous avons dit qu'il faut travailler à relancer l'économie. Ceux qui n'ont eu l'affaire, ils n'avaient même pas un plan de développement. Le plan de développement du Burkina Faso a été conçu en 2016, après leur arrivée au pouvoir. Une table ronde a été faite en France en décembre 2016. Ils ont promis de mobiliser 18 000 milliards. Aujourd'hui, je ne crois même pas qu'ils aient dit 2 000 milliards. Voilà l'échec du gouvernement.
Quand on écoute vos propos, M. Eddy Kombogo, en répondant à la question de Francis sur les solutions alternatives, on a l'impression que vous êtes en train de nous dire que le gouvernement de Rokma Christian Kaboré a opté pour la navigation à vue dans la lutte contre la sécurité, qu'il n'a aucune stratégie réelle de lutte contre le terrorisme.
C'est ce que nous constatons, rien ne nous a été servi, nous constatons par les résultats. Les résultats, après 4 ans de gestion, le Burkina ne fait que s'embourber dans l'abîme de l'insécurité. La conscience s'est effritée. L'économie s'est écoulée. Nous ne regardons pas les résultats. Nous constatons que nous n'avons aucune stratégie. On gère par tâtonnement et le peuple burkinabé en partie.
Voilà, on constate néanmoins que cette situation sécuritaire risque d'obliger le gouvernement à repousser la date des élections législatives de l'année prochaine, une option contre laquelle vous vous êtes clairement opposé. Pourquoi rejetez-vous toute idée de report de la présidentielle 2020 alors qu'on sait que dans le cas des autres pays où l'insécurité était au plus fort, comme la Centrafrique ou le Mali, les élections ont été maintenues, mais n'ont pas réussi à sortir le pays de la situation de la crise sécuritaire?
Enfin, tout simplement, nous disons que constitutionnellement, le gouvernement en place et le régime Kaboré a l'obligation de ramener la sécurité au Burkina dans les plus brefs délais. C'est leur obligation. Et constitutionnellement, oui. Il a été arrêté que dans 5 ans, c'est un mandat de 5 ans, et pas 4, et pas 6.
D'accord, mais si la situation sécuritaire obligeait les autorités à repousser la date des élections présidentielles, vous avez dit que vous serez contre, vous êtes contre. Mais c'est une hypothèse.
Ils ont l'obligation de ramener la sécurité pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. C'est notre exigence aujourd'hui. Et c'est l'exigence du peuple burkinabé aujourd'hui. Nous portons très haut.
Donc vous voulez coûte que coûte aller aux élections, quelle que soit la situation sécuritaire, quitte à exclure une bonne partie du Burkinabé, de Burkinabé, notamment les habitants du nord où il y a beaucoup de populations déplacées.
Nous souhaitons que la sécurité revienne au Burkina Faso. Je vous dis, madame, pour les gens qui vivent l'insécurité que nous vivons actuellement, les pauvres paysans dans leurs champs, qui ne savent pas pourquoi ils meurent tous les jours, n'ont même pas pu récolter ce qu'ils ont semé pendant la saison pluvieuse. Quand on va abattre un homme, sa femme, ses enfants, ils ne savent même pas pour quelle raison. Que des populations se sentent obligées d'immigrer, de quitter les zones d'insécurité et se retrouvent dans des communes où ils n'ont pas de logis décent, ils n'ont pas de à manger, ils n'ont pas de sécurité alimentaire. Pensez-vous que leur idée, c'est d'aller aux élections? Non. C'est pourquoi nous disons que la priorité, c'est de ramener la sécurité pour respecter l'échéance. Nous avons eu un dialogue politique en 2019 où la majorité nous a dit « Nous sommes prêts et d'accord pour travailler pour que la sécurité revienne afin que nous organisions les élections en 2020. » Et nous avons rappelé que cet engagement doit être tenu par la majorité actuelle.
D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Komboigo, on va arrêter un moment le temps de vous rappeler sur un autre numéro parce que la liaison se dégrade avec vous sur cette ligne. Et on va pendant ce temps, alors qu'on essaie de vous joindre sur un second numéro, d'écouter notre confrère Aliou du Niger sur ce que vient de déclarer notre invité Eddie Komboigo Aliou, qui estime que le gouvernement a délibérément, c'est en substance ce qu'il dit, choisi de ne pas attaquer, de ne pas s'attaquer à la lutte contre le terrorisme, de ne pas s'attaquer au terrorisme avec de bonnes méthodes.
Merci, madame. Je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas directeur de publication du Matinal, je suis rédacteur en chef du Matinal.
Tout à fait.
Ceci étant, qu'on dise que le gouvernement burkinabé ne voudrait pas... Bon, en fait, le problème de la lutte contre le terrorisme, on nous l'a toujours dit, que c'est une guerre asymétrique, difficile à maîtriser, qui prendra du temps, tout ceci. Mais ce qui est beaucoup plus... ce qui est plus étonnant au Burkina et au Niger, c'est que on a comme l'impression qu'il y a des zones qui sont pratiquement abandonnées. Le nord du Burkina, les gens y vivent. Et aujourd'hui, tous les matins que Dieu fait, il y a des attaques. C'est comme la zone juxtaposée avec le Niger. On se pose les questions, c'est les mêmes populations, elles sont là, elles vivent, mais il y a énormément d'attaques parce que l'État n'est jamais présent. Peut-être que nos États ne sont pas pris de la meilleure manière parce qu'on a comme l'impression qu'on privilégie la guerre. Il y a beaucoup d'autres canaux qui pouvaient peut-être amener, et c'est pourquoi j'ai dit que l'opposant...
D'autres canaux, vous pensez, vous parlez du retour de l'État dans ces...
Il pouvait amener au moins quelques solutions.
Vous parlez du retour effectif de l'État dans ces zones abandonnées, là où l'État était absent.
Dans ces zones abandonnées, évidemment. Cela a été de tout temps le problème. Parce qu'on sait, parce que moi je suis élève...
Je suis navré de vous interrompre, Aliou, on va marquer une pause.
Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat...
Retour du débat BBC Afrique, Afrique Radio, notre grand témoin invité dans cette édition depuis Ouagadougou, Eddie Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ancienne formation au pouvoir au Burkina Faso, et notre confrère invité au téléphone depuis Niamey, Aliou Oumarou Modibo, qui est donc rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, édité au Niger, et à qui on va permettre donc d'aller jusqu'au bout de son propos qui était interrompu avant la pause. Aliou,
oui,
c'est à vous.
Francis, il parlait des moyens, des autres moyens qui existent que la guerre pour combattre le terrorisme.
Aliou.
Oui, par expérience, c'est ce que je sais, c'est que au nord, au Niger, là, à l'ouest du Niger, le problème qui s'est posé, c'est un problème communautaire qui est tout au départ. Et c'est un problème communautaire qu'on aurait pu régler. Et même au Burkina, c'est un problème communautaire qu'on doit pouvoir régler. J'ai dit que nos autorités, qui n'ont pas la maîtrise de toutes les situations, parce qu'ils n'ont ni les moyens, ni les informations nécessaires, ne sont pas prises à temps pour étudier effectivement les contextes et toutes les origines de tous ces conflits.
Merci.
Il y a des tribus de nomades, particulièrement chez le peuple, et qui sont, dans la majeure partie des cas, ceux qui font la guerre. Ça a commencé comment ? Et c'est ce qu'il fallait demander. Depuis que la Libye a été désintégrée, je me suis posé la question, si on a laissé les gens traverser, aller jusqu'à Kidal et après revenir à l'ouest du Niger et au nord du Burkina, je trouve quelque part que nos chefs d'État, enfin nos responsables ne sont pas pris à temps. Et ils n'ont pas voulu réellement chercher le nœud du problème.
Merci beaucoup.
Tout le monde a raison. Tout le monde a raison de dire, parce que le problème, tout le monde dit non, que c'est une guerre asymétrique, qu'on ne peut rien, il faut attendre, il faut aller longtemps, mais la guerre, elle a toujours été asymétrique.
Merci.
Si vous prenez l'histoire de la guerre.
Excusez-moi, Aliou, on va repasser, le temps ne nous permet plus. Donc.
Eddie Komboigo, vous disiez donc que votre parti avait des propositions alternatives pour lutter contre le terrorisme. Je voulais juste vous poser une question justement sur le fonctionnement de votre parti, Eddie Komboigo. Vous présidez donc le CDP, hein, qui a élevé Blaise Compaoré au rang de président d'honneur de ce parti. Vous avez déclaré dans une interview en mai dernier que vous consultez souvent Blaise Compaoré, qui, il faut le rappeler, est en exil en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut comprendre que Blaise Compaoré prend part activement aux décisions et aux actions du parti actuellement ?
Je voudrais dire que notre président d'honneur, c'est un président qui intervient lorsqu'il y a une crise dans le parti. Il tente de retrouver l'unité, la cohésion. Donc, il peut nous interpeller, nous échanger, nous conseiller pour que nous puissions trouver une solution.
Donc, Blaise Compaoré est actif donc, dans la vie, dans le jeu politique au Burkina Faso actuellement. C'est ce que vous dites ?
Non, pas du tout. J'ai dit que Blaise Compaoré peut nous appeler en tant que président et membre qui est échangé. Il n'a pas dit que Blaise Compaoré est actif dans la vie politique.
Vous avez déclaré que vous le consultiez régulièrement.
Oui, pour la vie de mon parti.
D'accord. Mais votre parti est actif dans le jeu politique burkinabé. Hein. Alors, une deuxième question sur le parti, Elila, ensuite je vous laisse la parole si vous voulez bien. Vous avez aussi déclaré, dit Komboigo, que le CDP, votre parti, est en train de reconquérir la confiance de la population. Est-ce que cette reconquête dont vous parlez est liée à l'ancien bilan de votre parti ou aux faiblesses de l'actuel pouvoir ?
Certainement que lorsque l'on compare la gestion d'antan à la gestion actuelle, les Burkinabés vous diront que la gestion n'a pas été meilleure. Mais nous sommes en train d'implémenter une nouvelle gouvernance lorsque nous allons exposer le programme, notre programme d'activité, notre programme de société pour les Burkina. Ils verront que nous allons proposer mieux, nous allons faire mieux que l'ancien régime. Donc ça sera davantage mieux que ce qu'il faut qu'avant.
Vous êtes déjà en campagne pour la présidentielle de 2020, Monsieur Komboigo. C'est l'impression qu'on a quand on vous entend. Est-ce que vous pouvez parler un peu à haute voix, s'il vous plaît ? Votre voix est très faible.
Alors là, nous ne sommes pas en campagne. Nous sommes en train de réveiller les femmes. Nous sommes en consultation. Nous avons choisi de faire le tour de l'ensemble des provinces, de l'ensemble des communes rurales pour reprendre à tâche avec nos bases. Surtout pour leur demander leur présence et leur participation aux prochaines élections présidentielles, parce que je pense que tout le monde est déçu au Burkina Faso de la gouvernance.
D'accord. Vous dites tout le monde, mais on va revenir à la lutte contre l'insécurité qui est un problème national. Je vais vous demander, au regard des difficultés à trouver des financements pour la force du G5 Sahel et aussi devant l'hésitation des Nations Unies, est-ce que finalement vous n'êtes pas condamné, malgré vos divergences au sein de la classe politique, à trouver une solution interne commune pour faire face au terrorisme qui n'épargne personne? Francis disait que les attaques ne connaissent pas de parti politique. Est-ce que vous n'êtes pas obligé, au niveau interne, de vous entendre, de travailler ensemble pour venir à bout de ces attaques?
Une union sacrée.
Absolument.
Vous avez tout à fait raison, madame. Depuis 2016, nous avons demandé cette union sacrée. Depuis 2016, nous avons demandé la réconciliation nationale, la réconciliation entre les Burkinabés. Nous avons dit qu'il faut qu'on se pardonne mutuellement, quel que soit ce qui s'est passé. Que cela passe par le plus juste. Vérité, justice et réconciliation, nous avons donné notre accord. Mais vous avez vu que la justice classique prend beaucoup de temps et le gouvernement semble avoir opté pour cette justice classique. Nous avons mis une institution qui s'appelle le HCOUN qui a proposé que l'on passe par la justice transitionnelle pour que nous puissions aller rapidement à la réconciliation afin d'avoir l'unité sacrée, l'union sacrée demandé par les populations pour qu'ensemble nous puissions lutter contre le terrorisme et contre tous les maux qui frappent le Burkina Faso. Malheureusement, nous sentons que...
Mais selon vous, par quoi passe cette union sacrée? Le retour de Blaise Compaoré, vous semblez convaincu qu'il doit jouer un rôle dans le retour à la paix au Burkina?
Sur Blaise Compaoré.
Mais c'est vous qui parlez de réconciliation. Je vous ai posé une question sur comment la classe politique peut travailler ensemble pour venir à bout du terrorisme. Vous nous parlez de réconciliation. Donc, quand on parle de réconciliation, au sein du CDP, on voit un retour de Blaise Compaoré.
Il y a à l'intérieur une tissu politique entre l'opposition et la majorité. Vous avez suivi ces derniers temps les différentes déclarations. Et il n'y a pas de concertation. La Constitution donne droit au président Kabore de consulter l'opposition quand il décide, au moins une fois tous les 6 mois. Depuis 2000, leur accession au pouvoir, nous avons été reçus que 2 fois. Pour parler d'élection, nous avons dit qu'il ne fallait pas parler d'élection, il fallait parler de la sécurité, c'est une priorité de vivre les Burkinabés aujourd'hui.
Et à ce sujet, M. Kombouégo, une dernière question rapidement sur cette sécurité dans votre pays. Quel est l'état de l'armée burkinabé aujourd'hui? Est-ce qu'elle a les moyens qu'il faut pour combattre le terrorisme? Et est-ce qu'elle a les moyens de mener durablement la guerre contre ces groupes armés qui attaquent votre pays régulièrement?
Écoutez, dans le premier temps, je ne suis pas militaire. Dans le second temps, je ne suis pas au pouvoir actuel. Ce qui est de notre responsabilité. Lorsque le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait un budget, on augmente le budget de l'armée, les députés de l'Assemblée ont consenti et ont voté favorablement. Nous avons rendu visite à Marseille, au chef d'état-major général des armées, pour nous assurer que les fonds budgétisés ont été débloqués. Il nous a répondu par la politique. Nous constatons ces derniers temps que l'armée continue de se plaindre qu'elle n'est pas suffisamment équipée, n'est pas bien équipée, qu'elle attend encore un problème d'équipement. J'ai dit que comme nous ne sommes pas militaires et que nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne pouvons pas vous dire réellement, répondre pas à vos questions, mais nous savons que nous avons été interpellés et que nos députés ont été interpellés à l'Assemblée nationale et nous avons voté favorablement l'augmentation substantielle du budget revenant à l'armée. Et nous, en tant que président du parti, j'ai rendu visite au chef d'état-major général des armées avec une délégation de mon parti pour nous assurer que le budget voté a été décaissé. Le chef d'état-major général des armées nous a répondu par la police. Malheureusement, aujourd'hui, toujours, les autres se plaignent, ils ne sont pas suffisamment équipés. Ça se pose un problème.
Et en quelques mots, Monsieur Komboigo, que pensez-vous des déclarations faites lors du forum sur la sécurité à Dakar par le ministre nigérien de la Défense, qui regrettait en quelque sorte que la communauté internationale n'accorde pas la même attention à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel que dans d'autres pays comme la Syrie? Est-ce que c'est votre sentiment?
Je pense qu'ils ont tout à fait raison, parce que il nous revient que les accords qui avaient été signés au niveau du G5 Sahel, des propositions de collecte de ressources de l'ordre de 400 millions d'euros ne sont toujours pas rentrés. Et ensuite, au niveau aussi du plan international du G7, ils ont demandé qu'on mobilise immédiatement 1 milliard de dollars. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas encore eu les décaissements. Alors, si ce sont que des promesses, je crains qu'il va falloir changer de fusil d'épaule et de manière de faire. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut que les institutions internationales aient un regard plus avisé sur la situation qui se dégrade davantage dans la zone sahélo-sahélienne.
Français, si vous permettez, je voudrais que notre invité réagisse au propos de Salif Keïta, le Malien, puisque le Mali est également un autre pays, comme le Burkina, très touché par les attaques terroristes. L'artiste qui a déclaré, en s'adressant au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, que c'est la France qui finance nos ennemis, en parlant des djihadistes. Quel est votre commentaire sur ces déclarations de Salif Keïta? En deux mots, Monsieur Komboigo.
Peut-être que Salif Keïta est plus renseigné que moi. En tout cas, pour ce qui concerne notre pays, en tant que président du parti, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais eu preuve que la France est en train de soutenir les terroristes. S'il venait à porter les preuves réellement de la France, nous accuserons. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune information, aucune preuve à la naissance.
Merci.
Débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et notre grand témoin invité dans cette édition, Eddy Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ancienne formation au pouvoir au Burkina Faso, et notre confrère invité au téléphone depuis Niamey, Aliou Oumarou Modibo, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, édité au Niger. Le Niger, justement, avec cette question, quel est l'avenir politique pour l'opposant Mahamadou, l'opposant Mahamadou, chef de file de l'opposition, donc en exil depuis 3 ans, suite à une évacuation sanitaire. Il est rentré dans son pays le 14 novembre dernier, après le décès de sa mère, survenu 2 semaines plus tôt, condamné à 1 an de prison pour trafic de bébés. Il s'est rendu de lui-même au tribunal ce 18 novembre pour être aussitôt incarcéré. Purgera-t-il les 8 mois de prison restants ou pourra-t-il bénéficier d'une grâce présidentielle qui ne lui permettra pas pour autant de se présenter à la prochaine élection présidentielle à laquelle il s'est déjà porté candidat? Quelle issue judiciaire donc ou politique à ce psychodrame qui a marqué la vie politique nigérienne au cours de ces dernières années? On va poser une première question à Aliou Oumarou Modibo qui est sur place au Niger. Aliou, est-ce que l'opinion nigérienne déjà a été surprise par ce retour de Mahamadou?
Bon, cela dépend de... Tout le monde a été surpris, même le pouvoir ne savait pas qu'il arrivait.
Ah oui.
Mais si on écoutait un tout petit peu ce qu'il disait depuis un certain moment, il disait à chaque fois qu'il rentrerait au Niger. Et puis, si on se réfère aux péripéties qui ont entouré ces dernières semaines avec le non-procès à Abuja, de la CDAO, enfin, ils ne sont pas allés au fond, c'était la seule bouée de sauvetage qui lui restait. Et bon, les juges de la CDAO ont dit qu'ils ne peuvent rien faire comme il y a l'autorité de la chose jugée. Bon, à partir de ce moment, je ne vois pas ce qu'ils pourraient rester faire ailleurs.
Quand vous dites que les autorités elles-mêmes ont été surprises, c'est étonnant parce que certains commentateurs affirment qu'un arrangement aurait été conclu entre lui et les autorités nigériennes pour ce retour.
Non, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas s'il y a un arrangement quelque part. Mais ce qui est évident, c'est qu'à son arrivée, pratiquement tout le monde était surpris. Même le Premier ministre qui a géré l'affaire, parce que le président n'était pas absent, et le ministre de l'Intérieur non plus n'était pas présent. Il était à Abuja. C'est le Premier ministre qui a géré, et même lui, je crois quelque part qu'il n'était pas très très au fait de l'information.
Les services de renseignement sont quand même actifs au Niger.
Hama devait venir. Il n'avait pas autre chose à faire que cela. Il est dans un pays où il est au Bénin. Le président Issoufou, à la justice nigérienne, a demandé à la justice béninoise de l'amener. Bon, ça n'a pas été fait, mais je crois qu'à partir du moment où il sait qu'il ne reste plus rien, je crois que c'est purger sa peine seulement qui reste. Surtout qu'aujourd'hui, vous voyez très bien que le pipeline du pétrole du Niger, au lieu de passer comme c'était prévu au Tchad et au Cameroun, repasse au Bénin. Bon, on peut dire que c'est intéressé et pour ne pas peut-être froisser les relations entre le Niger et le Bénin, je crois qu'il avait tout intérêt à revenir.
Liliane.
En fait, c'est ce que je pense. Bon,
mais voilà,
il est là,
soit
il est en prison, je crois
que son retour.
Le tout, c'est de savoir ce qui va advenir après.
Justement, que son retour soit le fruit d'un deal avec le pouvoir ou non. Mais est-ce que. Oui, vous m'entendez, Aliou?
Oui.
Voilà, oui. Vous disiez que les autorités n'étaient pas au courant de son retour et j'enchaînais en répondant que ce soit le fruit d'un deal ou non. Mais toujours est-il que Ama Amadou est là, il s'est lui-même présenté lundi, Francis le disait, il est incarcéré pour purger le reste de sa peine. Est-ce que son retour va fondamentalement bousculer la scène politique à un an de la présidentielle?
Oui, dans les deux cas, qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat,
absolument.
Il a son mot à dire et de toute évidence, il risque fort d'être dans les deux cas faiseur de roi. Et je crois que tout le monde, tous les candidats voudraient bien l'avoir de son côté et même le pouvoir.
C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à se présenter, même en cas de grâce présidentielle, il pourrait donner des consignes de vote qui pourraient être suivies.
C'est ça justement, j'ai dit dans les deux cas. Il y a la grâce, il y a la réhabilitation qui est possible. Donc tout ça, c'est possible. Mais même s'il ne se présentait pas, il a les moyens quand même de faire mal à ses concurrents. Donc je crois que son retour est la meilleure chose qui pourrait arriver à la classe politique aujourd'hui. Parce qu'il est là sur place. Même s'il est en prison, il a des contacts. Même s'il est en prison, il peut donner des mots d'ordre. Même s'il ne se présente pas, il peut donner des mots d'ordre. Je crois que c'est très bien calculé et je crois que ça va apporter beaucoup de choses et à l'opposition politique et à la classe politique tout entière.
Est-ce qu'on peut envisager un rapprochement éventuel avec le pouvoir, étant donné qu'il a été allié du président Issoufou avant que les deux ne se brouillent? Est-ce qu'on peut... C'est une hypothèse sérieuse?
Ouais. Écoutez, tout est possible. Tu sais, vous savez, moi, au Niger, rien ne m'étonne, tout est possible. Aujourd'hui, la situation politique, elle est quoi? Les prochaines élections, on a un candidat du parti au pouvoir.
Le PNSD, Mohamed Bazoum, candidat connu depuis longtemps. C'est clair que le PNSD sera le candidat du parti au pouvoir, le PNSD.
Du parti au pouvoir. Il y a l'ancien chef d'État qui est là embusqué. Salou Djibo. Il y a aussi l'ancien chef d'État, l'ancien président de la Troisième République, Maman Ousmane, qui est là embusqué. Bon, il y a le président du MNSD, le grand Babab, comme on l'appelle, qui tout de même a des restes. Il y a
l'ancien parti de Tandja.
Tandja Mamadou, oui.
Le président.
Et qui reste encore, qui est très bien implanté à l'intérieur du pays et qui peut aussi faire mal. Dans ces conditions, le retour de Hama est une très très bonne chose, enfin je crois pour les hommes politiques, parce que tout le monde s'attendra peut-être qu'au cas où il ne serait pas candidat,
merci,
à avoir...
Donc il sera courtisé de part et d'autre.
Je crois que bon, on verra ce que ça va être d'ici là, mais je crois que c'est un très bon calcul qu'il a fait. Il a très bien calculé et il est arrivé. Il va purger sa peine. Bon, peut-être
merci
que
beaucoup.
Le président peut le gracier à l'occasion du 18 décembre. Peut-être qu'on peut le réhabiliter pour service rendu à la nation, comme il a été Premier ministre, président de l'Assemblée. Donc, toutes les hypothèses sont possibles.
Merci.
Mais toujours est-il qu'à ce stade-là, on attend de voir.
D'accord. On va voir justement ce que cela va donner. Non, c'est encore un peu loin. Monsieur Edi Komboigo, sur ce retour de l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et président de parti, Ahmad Amadou, au Niger, quel peut être son rôle, ou bien que pensez-vous que devrait être son rôle au sein de la classe politique, justement dans la perspective de 2020? Est-ce que vous pensez peut-être qu'il sera cette figure consensuelle autour de laquelle l'opposition peut peut-être vraiment se retrouver?
Permettez-moi d'abord de saluer son courage. Il veut être revenu. Il est revenu pour publier sa peine. Il est revenu également pour travailler dans un esprit de consensus et de rassemblement. Plaise à la classe politique d'accepter la main tendue. Plaise aux paysans de la République d'aller dans le sens du rassemblement et de l'unité des hommes politiques et du peuple nigérien en trouvant une grâce. Maintenant, son engagement politique peut certainement influencer parce que, qu'il soit candidat ou pas, qu'il soutienne une candidature de l'opposition ou de la majorité, ça va certainement influencer. Et je pense qu'en démocratie, il faut laisser la liberté à tout un chacun dans une situation comme ça, que l'on n'utilise pas la justice comme un règlement de compte, que l'on puisse transcender, et comme il a cité un des journalistes tout à l'heure, il a d'abord été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée, il a rendu service, on peut avoir commis des erreurs. Mais lorsqu'on va dans une maison d'arrêt et de correction, on oublie souvent le fait que c'est une maison d'arrêt et de correction. Si sa présence là-bas lui permet de se corriger, ou si son exil lui a permis de se corriger, de réfléchir pour rentrer, je pense que le peuple nigérien devrait être en santé. Et la classe politique devait être rassemblée.
Mais quand on est passé par là, quand on est passé par la case prison, comme vous le dites, Francis disait, on ne sait pas s'il va purger les 8 mois restants ou il sera gracié d'ici là. Quel doit être aujourd'hui le rôle, d'après vous, d'une figure politique aussi importante qui a occupé de hautes fonctions et qui revient d'exil et qui sera sorti de prison? Qu'est-ce que vous attendez de lui?
Qu'est-ce que peut-être on attend de lui? C'est peut-être d'élever davantage le niveau de la classe politique, parce que c'est un homme d'expérience, c'est un homme averti, avec des propositions conséquentes. Vous savez que le Niger, aujourd'hui, on découvre de plus en plus de ressources pétrolières, de ressources gazières, et de faire des propositions pour que l'économie, dans son offre politique, ou dans l'offre politique du mouvement qu'il va soutenir, des offres politiques conséquentes, la classe politique puisse avoir des solutions pour développer davantage le Niger. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan social, c'est de savoir que l'on peut avoir des compréhensions dans la classe politique, mais au Niger, on n'est pas des amis, ils sont tous des Nigériens, et l'avenir du Niger dépend de leur réconciliation et de leur unité. Donc moi, j'attends un homme qui travaillera dans le sens de la réconciliation au niveau du Niger, un homme qui travaillera...
Qu'il soit peut-être un homme du centre, ni du pouvoir, ni de l'opposition.
Pourquoi vous voulez qu'il soit du centre? Son parti a déjà une orientation politique. Je pense qu'il va regagner son parti et qu'il va continuer à se battre pour son parti.
Merci.
Je connais particulièrement un de ses amis qui s'appelle Obas Chana. J'étais là à son retour, j'ai vu les images, j'avais les frissons. Je crois que de plus en plus, il faut qu'il se reparle, se recomprenne.
Merci beaucoup.
Dans l'intérêt majeur du Niger.
Son parti Lumanafa, qui est également divisé et à l'intérieur duquel il faut effectivement mettre de l'ordre. Francis, nous allons passer au dernier sujet, le sujet 3. Francis, sans transition, la lame et le fourreau du sabre d'El Hadj Omar Tall, chef religieux vaincu par les Français en 1893, faisait partie des objets qu'il fallait restituer immédiatement, ce qu'avait recommandé le rapport de Fenwin Sarr et de Bénédicte Savoy, affirme le directeur du musée des civilisations noires de Dakar, qui accueille l'objet restitué, mais sous forme de prêt. et Amadi Bokoun de déclarer « C'est la troisième fois que la France nous prête ce qui nous appartient, ce qui réjouit, ce que cette fois, c'est un voyage sans retour, mais les députés français doivent encore voter une loi et ce n'est pas gagné. Laquelle loi permettra, si elle est votée évidemment, de pouvoir rendre à l'Afrique ses objets culturels spoliés pendant la colonisation et même au-delà ?» Je vais commencer avec vous, une fois de plus, monsieur Eddy Kombo-Hugo. Avez-vous le sentiment que le retour, même sous forme de prêt de cet objet, est tout de même l'expression d'une volonté politique côté français d'aller plus loin, ou considérez-vous qu'il s'agit simplement d'un acte symbolique visant peut-être à donner l'illusion d'une réelle prise en compte des recommandations contenues dans le rapport demandé par Macron ?
C'est une occupation symbolique, c'est un symbole très fort. Je crois que c'est le 28 novembre 2017 que le président Macron, Emmanuel Macron, a déclaré au Burkina Faso qu'il va restituer les œuvres appartenant à ses anciennes colonies. Un rapport a été déposé avec certainement un planning de restitution, mais ils ont anticipé. Cela peut plaire comme ça, ça ne peut pas plaire. C'est un grand homme qui est la figure de la combattue. C'est un signe fort. Peut-être que c'est une invite également à l'Afrique de dire partez-vous, que l'ancienne colonie est en train de dire, vous ramenez ce centre-là pour que vous partiez, pour que vous sortiez de ce sous-développement, que vous preniez en charge vous-même. Et je pense que c'est un symbole très très fort. Et parce qu'il a également une figure de combat depuis 1893, il a été vaincu. Et cet homme-là est une figure de combativité. Et nous ressentons ça. Et sinon, la France, en faisant ces déclarations, va peut-être accélérer également le retour de ces œuvres d'art, de ces œuvres historiques qui reflètent la culture de l'Afrique et la combativité dans la période coloniale.
Oui, c'est quand même une longue procédure, Eddy Kombo-Hugo, parce que pour que les restitutions soient effectives, il faut attendre le vote de loi par des députés français. Autrement dit, ces objets demeurent encore des propriétés, une propriété française, quoi.
Oui, mais écoutez, s'il y a la volonté politique, tout va de soi. À partir du moment où on leur a déjà prêté trois fois, je crois que cette fois-ci, on dit qu'on ne leur retourne en réalité. Il faut un vote de loi. Je crois que préparer un projet de loi ou une proposition de loi, on n'a pas besoin des années. J'ai vu un peu le programme de restitution, mais cela est dû au fait qu'il fallait d'abord identifier chaque bien pour chaque pays. À partir du moment où nous avons la certitude que tel bien revient à tel pays, il faudrait que la loi aille plus vite. Ça peut aller en 2-3 mois, on peut voter une loi. Voilà.
En 2-3 mois. Encore faut-il que ce soit inscrit dans l'agenda de l'Assemblée nationale.
Le président fort de Macron, il faut croire réellement qu'il peut restituer et que les pays africains se préparent à recevoir leur résultat.
Donc merci pour vous, beaucoup. La volonté politique, vous constatez qu'il y a une réelle volonté politique de restituer ces œuvres, parce qu'on parle quand même de 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne qui sont dans les collections publiques françaises.
Il n'y a pas de raison de douter de la bonne foi du président Macron. Il l'a dit et il a mis en œuvre ce qu'il a proposé et un rapport a été déposé. Le planning va jusqu'en 2022, je crois.
Merci.
À partir de 2022, les choses vont pouvoir encore...
D'accord, vous lui faites confiance.
Donc, il y a une volonté, pense qu'il faut lui faire confiance. Il faudrait qu'à notre tour, nous soyons organisés pour recevoir ces œuvres-là.
On va écouter le message, Liliane. On n'a plus le temps. Il faut écouter le message à présent.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina Abdourahamane Camara estime que la solution ne viendra pas de la France, mais plutôt des Burkinabés eux-mêmes. Pour lui, l'État doit s'appuyer sur sa propre armée et mieux l'outiller afin qu'elle puisse être plus efficace sur le champ de bataille. Thierry Hassène Ibodou demandera à notre invité pourquoi il affirme que le Faso ne retrouvera la paix que si sa formation politique revient au pouvoir. Cela voudra-t-il dire que le CDP en est pour quelque chose dans la déstabilisation du pays? Pour Eliakim Bandera, le Burkina doit fermer ses frontières et déployer les éléments de Diendéré sur le terrain. Niger Jean-Pierre Ounadeke estime que Ama Amadou doit purger l'entièreté de sa peine car nul n'est au-dessus de la loi. De son côté, Bessam Degoto Rodrigue se demande si ce retour en prison de Ama Amadou ne remet pas en cause le souhait du président Mamadou Issoufou d'organiser des élections libres et transparentes pour une alternance pacifique au sommet de l'État. Sénégal, Charles Bazema se réjouit de la restitution à l'Afrique de ses objets historique, mais se demande en quoi est-ce qu'ils vont améliorer le quotidien des Africains. Merci à Chris Sabien Avouyansou qui nous suit depuis Ouida au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/debat-bbc-africa-africa-radio et sur Twitter à @debat-bbc-africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier. Merci beaucoup. Eddy Kamboigo, président, c'est le moment de vous demander de faire une conclusion générale. C'est la tradition dans l'émission.
Bon, je crois que pour ceux qui concernent le Burkina Faso, la situation est en train de s'empirer. Nous sentons la volonté de l'armée burkinabé de réagir, ça c'est certain. Nous avons, il y a la volonté, il y a le courage. Nous ne pouvons que souhaiter ton courage et surtout inviter le gouvernement à davantage engager des efforts de formation et d'équipement et à développer également sa diplomatie. Parce qu'une guerre se gagne pas seulement par les armes, une guerre se gagne à 80-90% par la négociation, par la diplomatie et à 20-10% par les armes. Et nous invitons le gouvernement à davantage développer ses réseaux de renseignement, ses réseaux de diplomatie et surtout à arriver au bout parce qu'en définitive, qu'est-ce qui est à la cause de tout cela? C'est peut-être le chômage qui peut soutenir davantage le terrorisme d'affaires. Ce sont des jeunes que l'on engage qui sont sans emploi. Or, nos pays regorgent de beaucoup de richesses. Il faut aller jusqu'au bout, aller exploiter nos richesses et envoyer nos agents pour nos compatriotes pour leur donner des revenus et pour soutenir d'autres pays dans le sens du développement.
Merci beaucoup, Eddy Kamboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ancienne formation au pouvoir au Burkina Faso. Merci également à notre confrère invité, Aliou Oumarou Modibo, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, quotidien édité au Niger. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production. Didier Ladislas Lando, vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Et bon week-end à toutes et à tous, et vous en priorité, Liliane, bien sûr.
Merci Francis Laloupo, à la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.